With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Il est complètement con. C'est génial. Hervo, imbécile.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui n'a pas encore totalement remisé au placard son short de bain et compte bien faire encore un peu planer l'esprit de l'été en ce début du mois de septembre, puisque nous allons aujourd'hui nous intéresser à Wet Hot American Summer, le film culte et surtout la série qu'en a tiré récemment Netflix avec la quasi-totalité de la crème de l'humour US. Pour en parler autour de cette table, un duo dans la grande tradition des buddy movies, Alexandre Arbeau, salut Alex.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et le public autour de nous ici autant. Qu'allez, l'été sera chaud, c'est Nos Ciné, épisode 18. C'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
C'est l'une des têtes de pont Netflix ces derniers mois, Wet Hot American Summer, First Day of Camp, série qui décline une comédie culte vieille de presque 15 ans, quasi inconnue en France, contrairement à ses acteurs qu'on retrouve ici, dont au hasard Paul Rudd, Amy Poehler ou Bradley Cooper, qui reprennent leur rôle de moniteur d'un camp pour ados, le camp Firewood, en plein dans les glorieuses 80s, avec tout ce que ça comporte de détournement des codes de la college comedy.
Some of you were campers last year, but now you're all 16 or 17 years old. These are some things that will not happen here this summer. No relations between campers and counselors. This includes dry humping, necking, wet humping, finger banging, wheelbarrowing, saltwater taffying. You were supposed to be here a week ago.
Whatever. It smells weird. Who beefed?
Paul Rudd, toujours en haut dans nos cœurs, toujours la classe. Nos deux camarades ont passé l'été eux aussi au Camp Firewood, mais qu'en ont-ils retenu, Stéphane?
Alors tu
merci Stéphane.
Enfin, voilà, tu me poses vraiment la question, tu veux pas qu'on revienne un peu peut-être sur le culte à la base, parce que c'est vrai, comme c'est pas du tout connu.
C'est vrai que c'est pas très connu.
Je pense que
mais on parlera du film après.
D'accord, donc on parle d'abord de
ouais,
la série.
Ouais, c'est ça, hein, on fait tout à l'envers, d'accord. C'est super.
Bah écoute, ça va être difficile de t'en parler comme ça, parce que le problème c'est que moi j'ai trouvé ça sympa. C'est sympa à regarder comme ça en fait, j'ai regardé ça assez vite, binge-watché comme on dit quoi.
Il y a 8 épisodes. Hein.
Voilà, donc ça va très vite, c'est une demi-heure en général. Et par contre, en fait, j'ai un gros souci avec la logique de préquel de la série en question.
Oui, parce
question,
que ça
quoi.
Se passe donc avant le film qui lui voilà. a déjà 15 ans.
Voilà, donc le truc, c'est que c'est pour ça qu'il faut que je revienne un peu sur le film
vas-y,
pour donner mon sentiment là-dessus. Le truc avec le film original, c'est que moi, c'est un film que j'ai découvert à l'époque, à peu près, en DVD. Quoi. C'est vrai qu'en France, c'est invisible. Je crois même pas qu'il y ait une sortie DVD.
Mais il est sur Netflix, du coup.
Voilà,
Netflix
il est sur Netflix maintenant, effectivement. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est bizarre de le découvrir aujourd'hui, je pense, ouais. pour les gens, parce que c'est vraiment un humour qui est un peu daté maintenant. Tout le monde reprend un peu ce genre de ficelle et il y a une vanne par exemple sur les montages musicaux en fait ouais. des années 80 avec une chanson originale qui est assez marrante et tout, mais aujourd'hui ça a été fait 150
fois
voilà.
depuis ouais.
et le truc qui est étonnant avec la préquelle, c'est qu'en fait ils se sentent obligés d'expliquer absolument tous les gags les plus absurdes du film. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que ce montage musical, ils se sentent obligés d'en faire un plot en fait dans le et tout est expliqué comme ça. C'est-à-dire le personnage de Bradley Cooper est homo, il t'explique comment il est devenu homo dans la série. Il y a une canette en fait,
une boîte de conserve
une boîte de conserve parlante en fait dans l'original. Ils se sentent obligés de t'expliquer. Pourquoi en fait il y a une boîte de conserve parlante dans l'original et toute la série est comme ça voilà
ça,
et en fait c'est très étonnant parce que du coup je trouve que ceux qui découvrent en fait le film et la série en même temps risquent en fait d'avoir à la fois le ne pas forcément comprendre pourquoi c'est culte d'une certaine manière parce que ça, le culte ça, il faut que ça prenne le temps en fait de monter pour le revoir et revoir plusieurs fois pour savoir pourquoi ça nous plaît. Et en même temps, se faire complètement démystifier le film original par la série. Je pense que pour les Américains, ça fonctionne beaucoup mieux parce que peut-être qu'eux, ils découvrent, en fait, voilà, ils connaissent le film et puis ils se disent, ah oui, c'est marrant, voilà. Mais.
Si on démarre par ça, c'est un peu compliqué.
Voilà, c'est un peu bizarre, quoi. Donc, je pense que ça a à la fois tous les défauts d'une préquelle. Et en même temps, il y a quand même un tour de force dedans, c'est qu'ils réussissent à traiter tous les personnages, tous ceux qui sont importants. Ils donnent même de l'ampleur en fait à des personnages qui sont pas très importants dans l'original, comme Elizabeth Banks. Mais ça, je pense que c'est dû justement au fait que elles ont été starifiées depuis, quoi. Et donc oui, c'est assez agréable à regarder, mais c'est assez, moi je trouve assez feignant en fait.
Voilà. Alexandre.
Alors je suis un peu d'accord avec ce que vient de dire Stéphane. Dans le genre, de toute façon, tout ce qu'il vient de dire peut se résumer à une injonction: ne pas regarder la série avant d'avoir vu le film. Oui. Déjà d'une part, comme c'est un humour extrêmement particulier, si vous voyez le film qui dure une heure et demie et que vous détestez, que vous adhérez pas du tout à cet humour-là, bah au moins vous savez que vous pouvez vous épargner la vision des 8 épisodes, parce que si vous n'avez pas aimé le film, je pense que vous n'aimerez pas la série. Et surtout évidemment, ne pas regarder la série avant, parce que comme il le dit, ça détricote tout, ça démystifie tout, et en même temps c'est ce qui en fait le sel et ce qui rend le truc drôle, parce que on passe à des niveaux d'absurde, c'est de l'absurde au carré, c'est-à-dire que quand on voit le film, et pour reprendre l'exemple de la boîte de conserve parlante qui est complètement conne dans le film et qui le reste encore aujourd'hui, la raison pour laquelle une boîte de conserve parle, qui est expliquée dans la série, est elle-même complètement débile. Enfin, en gros, voilà, il rajoute de l'absurde sur de l'absurde, donc ça fait des couches d'humour complètement débiles à foison. Et sur cette série en 8 épisodes, le tour de force qui était appréciable avant même de voir un seul épisode, c'était quand même le fait, l'idée même d'une série préquelle 15 ans après avec les mêmes acteurs, donc qui par le truchement de perruques, de maquillage, reprennent leur rôle, ils en jouent, il y a plein de choses méta là-dessus. À la fin de la série, il y a quand même cette réplique: à la fin de l'été, vous aurez l'air d'avoir 15 ans de moins, un truc comme ça. Et au niveau du casting, donc c'est admirable qu'ils aient pu réussir à réunir tout le monde, parfois avec des truchements, ils s'en moquent eux-mêmes, par exemple ils mettent une cagoule à Bradley Cooper pendant plein d'épisodes parce qu'on sent qu'il n'était pas présent sur le tournage, donc il y a des choses vraiment très drôles là-dessus. Et en même temps, au niveau du casting, ils ne se sont pas uniquement contentés de ramener la troupe originale. Ils ont aussi ramené quelques nouveaux arrivants. Donc ça va de John Hamm à Kristen Wiig. Et à la crème un peu de l'humour US relativement récente, comme un des deux, je ne vais pas dire de bêtises, mais un des deux humoristes du duo Key & Peele, qui joue le rôle du rédac chef d'Elizabeth Banks. Donc il y a pas mal de petites perles comme ça qui sont rajoutées au casting original, qui était déjà assez plaisant. Et donc, moi sur le film en lui-même, l'histoire est anecdotique. Elle est absurde, donc il n'y a pas forcément de grand chose à attendre en termes de récit, mais le rythme est assez tenu. On rappelle que le film se passait sur une seule journée, oui, la dernière journée du camp d'été. La série, elle, se passe également sur une seule journée, mais la première. Du camp, et l'absurdité de ce dispositif est tenue jusqu'au bout, et pour moi ça marche plutôt bien.
Wet Hot American Summer, First Day of Camp, la mini-série, elle est à voir, on l'a dit, sur Netflix.
La Colo Firewood est plus qu'une colonie de vacances. La Colo Firewood est une idée.
Je dois affronter Drew dans un concours d'euro et...
Une promesse.
Bon, moi je suis une machine à baiser.
Un mode de vie. Pas de brouette espagnole, pas de bretzel bavarois, d'omelette de Denver, pas de double-double, de double-double-double, de triple-double, de double épingle, de garage double...
Retour quelques années en arrière, 14 ans précisément, en 2001, date de sortie de Wet Hot American Summer. Le film marqueur important de l'autre côté de l'Atlantique, c'est important pour la génération actuelle d'acteurs comiques, celle qu'on retrouvera ensuite dans les plus gros cartons du genre au ciné et dans les séries cultes comme 30 Rock ou Parks and Recreation. On est toujours au camp Firewood, toujours dans les années 80, toujours vibrant au son des guitares débridées de l'époque. La Foreigner, y a pas à chier, ça a pas pris une ride. Quel regard porter sur Wet Hot American Summer, le film 14 ans après sa sortie, Alexandre?
Alors c'est un film, comme Stéphane le disait tout à l'heure, qui a un peu vieilli, pas en tant que tel, c'est-à-dire que le film pour moi reste toujours aussi efficace, mais si on n'a pas vu vaguement à l'époque, comme il le disait tout à l'heure, il y a plein de ressorts comiques, notamment d'humour méta, d'humour référentiel, qui ont été pillés, utilisés ensuite par la suite. C'est un film qui a quand même une histoire complètement dingue, dans le sens où c'est un film qui a été fait avec relativement peu de budget. La personne la plus connue dedans, c'était Paul Rudd à l'époque, et tous les autres étaient plus ou moins des inconnus qui tournaient dans la scène comique, stand-up, improv, etc. etc. C'est un film qui a été tourné pour pas grand-chose, qui a été tourné dans des conditions absurdes. Il faut voir le making-of qui est dispo sur Netflix, pas forcément sur Netflix France d'ailleurs, je crois qu'il faut utiliser un VPN pour... Mais Netflix US, il y a un documentaire de 50 minutes tourné au caméscope à l'époque, où on voit les conditions de tournage absolument folles, où en gros, ils ont vraiment vécu pendant un mois de tournage dans un camp tous ensemble, donc l'esprit de camaraderie qu'on voit dans le film n'est pas forcément faussé, et il a fait un temps de merde absolu, il a plu pratiquement les trois quarts du temps pour un truc qui s'est censé se passer dans un été ensoleillé. C'est pour ça qu'on voit des grosses flaques par moment dans le film, et c'est un film qui a été très mal compris à l'époque, qui a fait un bide en salle, qui a été reçu par des critiques qui n'avaient vraiment pas compris le truc, et qui s'est forgé une réputation de culte comme ça par le bouche à oreille, par les projections sur les campus américains. bouquin, par la VHS et ensuite le DVD, etc. Et je pense qu'en termes d'humour et en termes d'influence, si on devait faire une pseudo-comparaison tirée par les cheveux en France, on pourrait peut-être dire que c'est un peu leur Cité de la Peur à eux, dans le genre déconstruction d'un genre. Nous, la Cité de la Peur, c'était le thriller. Eux, c'est le teen movie. Donc c'est le même genre d'humour absurde à base de bruitage hors champ, à base de d'humour pipi caca, mais pas que. Et c'est un film qui se voit comme un espèce d'artefact où toutes les graines des futurs comiques qu'on va voir, comme tu disais, par la suite à la série, en série ou au cinéma sont là. Et c'est un film de David Wayne qui a fait plein d'autres films très très cool par la suite, notamment Les Grands Frères avec
qui a quand même été renommé en DVD, je crois Mission 95C.
C'est exactement.
Faut quand même le faire, quoi. C'est dire à quel point ça n'a pas marché en salle
c'est
en
ça.
France. Quoi.
C'était le titre VO, c'était Role Models avec Paul Rudd et le mec d'American Pie dont j'ai oublié le nom. Donc c'est un gars qui a par la suite a mené une carrière assez forte et rien que le fait qu'il reprenne la barre de ça pour boucler un peu la boucle est assez admirable, je trouve.
Stéphane.
Ce qui est assez étonnant aussi avec Wet Hot American Summer, c'est que ce qui fait, à mon sens, tenir la route aujourd'hui, c'est qu'absolument tous les comiques actuels étaient présents à l'époque.
C'est
quand même un tour de force parce que t'as effectivement Amy Poehler qui allait faire Parks and Recreation, Paul Rudd.
Liste est assez imposante. Ouais.
Donc je pense que l'aspect culte, en fait, aujourd'hui, il est maintenu même pour les gens qui l'ont pas vu, pour se dire ah oui tiens, je connais tous ces acteurs là, donc je les redécouvre. Et c'est effectivement un tour de force aussi pour la série, en fait, d'avoir pu les ramener. Tu parlais tout à l'heure de Bradley Cooper, lui en fait il a tourné toutes ces scènes en une journée. Et je pense que je dis ça parce que ce qui est très important, je pense, pour ces acteurs là c'est qu'ils ont conscience, en fait, que le film est culte, et en fait ils ont tout fait pour pouvoir être présent, en fait, dans la série. Bradley Cooper, il faut savoir qu'à la base, quand il a tourné ses scènes, c'est quand il est venu pour les Oscars, en fait, à Hollywood, et en fait il a tourné le lendemain toutes ses séquences en une journée. Donc c'est malgré le fait que c'est l'acteur d'American Sniper, il voulait absolument être présent là. Donc c'est dire, en fait, à quel point le film effectivement a une importance dans leur carrière. C'est vrai que voilà, moi je vais revenir juste un tout petit peu sur la série. Le truc qui pose aussi problème, ce qui n'est pas dans le film justement, c'est que comme un peu toutes les comédies, en fait, qu'on voit actuellement, enfin ce mois-ci c'est un peu un hasard, il y a Absolutely Anything avec Simon Pegg ou Vive les Vacances, en fait, qui est un reboot des National Lampoon's Vacation de Chevy Chase. C'est des films, en fait, qui se sentent obligés de citer et reciter, en fait, leur héritage, au point de, un peu comme Jurassic World quelque part, en fait, au point d'absolument reprendre les mêmes séquences et, en fait, les détourner plus ou moins de leur sens. Dans Vacation, il y a la même scène où Chevy Chase draguait une automobiliste, en fait, quand il était en train de rouler. Et là, en fait, les mecs, ils poussent le gag au paroxysme en tuant l'automobiliste en question. Et lui, il s'en rend pas compte, le personnage s'en rend pas compte. C'est que des trucs comme ça. Le Simon Pegg, c'est un Monty Python où, en fait, ça a été vendu sur le fait que les Monty Python reviennent tous ensemble après 30 ans. Tout ça pour déjouer des extraterrestres dans une scène un peu où on les reconnaît pas, on les voit pas, on entend leur voix, mais voilà, donc c'est pas terrible, quoi. Et là, c'est un peu la même logique, quoi. Mais donc c'est pour ça que moi, l'aspect un peu démystificateur, pardon, de la série peut poser problème et porter ombrage au film en question. Maintenant, c'est avec le temps qu'on saura ça, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est ce qui me plaisait, en fait, dans Wet Hot American Summer, même si c'est pas un film sur lequel je délire, c'est que ça partait en cacahuète, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on va dire, peut-être l'humour de base de tous ces films-là, des American Pie, il y a un peu de ça, quoi. Mais en fait, quand ça commence à partir vraiment en sucette, les mecs ne s'excusent pas, ils y vont, et voilà, quoi.
C'est ce qui avait surpris et gêné le public à l'époque, parce que voilà, ça date de 2001, donc c'est juste après la lancée des American Pie, etc., un peu du renouveau teen movie américain, et les gens qui allaient voir ça à l'époque se disaient, bon, bah, on va se payer une tranche de rire, il va y avoir un mec qui va, je sais pas moi, fourrer une tarte avec sa queue, et on va bien se marrer pendant une heure et demie, alors qu'en fait, pas du tout, ça marche pas du tout sur ce genre de ficelle-là, ce genre de ressort-là, et c'est l'absurdité au paroxysme, avec des plans séquences longs de Paul Rudd qui jette son assiette et ses couverts par terre et qui met littéralement une minute pour les récupérer en faisant une moue fâchée à chaque fois. Enfin, quand on le raconte comme ça, évidemment, à l'oral, ça a l'air complètement nul à chier, et ça l'est aussi visuellement, mais
ça joue clairement sur la logique d'être, entre guillemets, mal joué, mal réalisé.
Oui, ça,
voilà,
c'est le malaise, le non-jeu, enfin le non-jeu, là, no joke, bref.
Wet Hot American Summer. Le film, il se trouve, on l'a dit, assez facilement en VOD, sur Netflix par exemple. Par contre, en DVD Blu-ray, je crois que c'est un petit peu plus compliqué. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs. Une petite minute chacun pour convaincre. On reste, si possible, dans et autour de la comédie US. Stéphane ?
Ouais, moi j'ai une série en fait qui est, je pense, pas très connue, qui s'appelle Party Down.
Ah, putain.
Voilà, c'est ce que tu voulais faire.
On aurait dû parler. Non, vas-y, parle.
Et en fait, c'est une série qui a été créée par Paul Rudd notamment, et justement, enfin, je dis notamment, et Ken Marino qui joue aussi dans Wet Hot American Summer, et qui a été à la base pitché au début des années 2000, donc juste après Wet Hot American Summer, qui n'a pas été acheté à l'époque, et qui a finalement été faite à la fin des années 2000, en 2009 et 2010. Il y a une vingtaine d'épisodes, ça a été annulé très très rapidement. Et c'est en fait l'histoire de comédiens ratés en fait qui vont à Los Angeles en fait qui déménagent à Los Angeles pour essayer de percer dans le milieu et qui se retrouvent en fait à travailler dans la restauration et dans les banquets en fait pour les stars quoi. Et c'est assez classique hein, et c'est avec Adam Scott, et pareil, il y a encore un casting de malade, il y a Adam Scott, il y a
Lizzie Kaplan,
voilà, il y a Martin Starr que j'aime beaucoup chez Judd Apatow. Enfin, il y en a d'autres. Il y a aussi des habitudes de Judd Apatow. Et c'est vraiment, c'est assez classique, mais c'est très sympa. Et bon, c'est un peu dommage que ça ait été annulé au bout de. Voilà. Donc, malheureusement, ce qui serait passé, c'est qu'il y avait une saison. S'il y avait une saison 3 en fait, Adam Scott serait parti puisqu'il était parti sur Parks and Recreation à ce moment-là. Mais je pense que ça aurait quand même pu maintenir le rythme, mais ça aurait pu être assez.
Et Jane Lynch aussi dans la première saison, ouais, et qui elle est partie sur Glee, d'où son remplacement.
Et c'est à redécouvrir Alexandre.
Alors moi du coup, je vais pas parler de Party Down, mais je vais revenir sur les grands frères, donc alias Mission 95C en DVD en France, alias Role Models en VO, film de David Wayne, donc avec Paul Rudd et je viens de me rappeler son nom, Sean William Scott en acolyte, le gars d'American Pie, Stifler dans l'American
Comment
Pie.
Comment l'oublier.
Et aussi le gars qui jouait McLovin dans Superbad d'Apatow, et en gros c'est une histoire voilà assez classique, c'est un buddy, enfin c'est pas vraiment un buddy movie, non, mais c'est une comédie américaine sur fond de jeu de rôle. Il y a Kenji Hong dedans qu'on a vu dans les Community, série Community et les films Very Bad Trip. J'ai plus trop le pitch en tête, mais je sais qu'il y a une histoire vaguement de jeu de rôle et puis surtout de deux losers américains qui sont un petit peu forcés d'encadrer des jeunes malgré eux, et c'est un film qui est à la fois hyper drôle avec des vannes assez trash très régulières, mais qui en même temps parvient à être assez touchant sur l'adolescence, sur le fait de ne pas se conformer aux diktats, si t'aimes bien jouer à jeu dragon et à faire du jeu grandeur nature, et ben accepte-toi comme tu es. Donc c'est un film qui est quand même assez bienveillant et assez touchant, et qui a des scènes assez anthologiques. Donc je conseille fortement, quel que soit le titre sous lequel vous le trouvez, que ce soit les grands frères, Mission 95C ou sur Torrent, Role Models,
c'est noté. Merci à tous les deux, notre temps est écoulé. Merci à Alain, à la technique, au temps et au public pour l'accueil. Prochain Nos Ciné, dans une semaine on parlera d'une autre série Netflix et c'est Narcos. D'ici là vous nous retrouverez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, on s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Mission Impossible, sur Mad Max, sur Rambo, sur Terminator Genisys, et laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. Et en attendant on vous dit à la semaine prochaine.